Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Ensemble sur Radio Grand Ciel qui vous est aujourd'hui présentée par Émilie Glory. Chaque année en France, environ 100 000 animaux de compagnie sont victimes d'abandon et pour certains d'entre eux, ils sont accueillis dans des structures en grande majorité des associations. Ici en Eure-et-Loire, la Société de protection et de défense des animaux située à Serazereux œuvre depuis 1958 et je reçois aujourd'hui sa responsable depuis mai 2024, Claire Brissard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Claire, vous avez une grande expérience de l'accueil en refuge, c'est votre métier, c'est votre quotidien depuis de nombreuses années. Alors comment êtes-vous entrée dans ce domaine d'activité ?
Alors moi c'était un rêve de petite fille et c'était vraiment ma mission. Mais il y a plus de 20 ans, ça fait 25 ans que je suis dans la protection animale, il y a plus de 20 ans, ça pouvait pas être un rêve. Et puis finalement, ça l'est devenu et je suis rentrée dans une grosse association en 2001. Où ça a été, je suis devenue moi en fait. En entrant dans cette association, je me suis découvert. Après, j'ai pu réaliser mon rêve, c'était de sauver les animaux. Et je pense qu'en protection animale, on est à la bonne place.
Est-ce que vous avez un parcours d'études particulier pour ça ? Vous êtes formée peut-être aussi, j'imagine, sur le tas ?
Oui. Alors, le souci, c'est que dans la protection animale, il n'y a pas d'école. C'est pour ça que là, nous, on met en place aussi de la formation. C'est que c'est un métier qui est très exigeant. Et les gens ne sont pas formés. Donc, du coup, on arrive à avoir des agents, des soigneurs animaliers, même en difficulté, en douleur. Et donc, on a mis ça en place, mais je pense qu'on l'évoquera plus tard. Et du coup, moi, c'est à l'AMPE. Enfin, avant, à l'époque, c'était l'AMPE où j'ai trouvé ce poste d'emploi. Et j'avais fait une formation de soigneur animalier pour les parcs zoologiques. Mais je savais que je n'allais pas pouvoir y travailler, soigner des animaux enfermés tout le temps. Ce n'était pas pour moi.
Alors, je voulais débuter cette émission en évoquant votre parcours, justement, parce que vous avez ce recul sur la situation des refuges en France, mais aussi sur les abandons. Alors, quel est votre regard sur la situation actuelle et son évolution ?
Mon regard, il n'est pas... Alors, je suis quelqu'un de très, très positif. Je ne crois vraiment en l'humain, sauf qu'en 2026, on ne va pas bien. Et en fait, la protection animale, c'est le reflet de la société. Et donc là, c'est dur. C'est très dur, c'est même... Ça peut être douloureux pour les gens qui sauvent les animaux. Et notamment, parfois, pour moi, personnellement, ça peut être douloureux.
Mmh. Par exemple, c'est vrai, quand on regarde les chiffres, le nombre d'abandons par an est finalement très stable depuis très longtemps.
Oui, après, là, c'est plus les individus, les animaux qui sont abandonnés, le type d'individu. Et c'est tout ce qui est assimilé staff et malinois. Il y a 15 ans, c'était pas le cas. Et ce sont des chiens qui supportent pas le conditionnement comme des croisés-chasses peuvent supporter, par exemple. Donc nous, ça me demande plus de connaissances, d'expérience, d'expertise. Et ça fait mal au cœur, parce que ne serait-ce que les assimilés staff, par exemple, ils sont très frileux. Et on les contraint de passer l'hiver dans de l'humidité. Donc ça fait, c'est doux, c'est divisé.
Vous êtes donc responsable du refuge de la Société de protection et de défense des animaux de Serazereux. Alors, je le disais en introduction, c'est une association qui a déjà une longue histoire.
Tout à fait, elle a été créée. Alors, je n'ai pas le nom de la créatrice, mais en 1958, parce que justement, il manquait un accueil d'animaux abandonnés en Eure-et-Loire. De ce que j'ai vu, c'était une femme extraordinaire, très impliquée, mais aussi bien pour les animaux que l'humain. Je crois qu'elle était infirmière, elle a travaillé pour les aveugles, elle a fait des choses extraordinaires. Et c'est vrai que nous, notre mission, au-delà de sauver les animaux, c'est de continuer en son hommage et en son honneur, de continuer l'association. Mais c'est pas toujours... L'avenir est pas forcément certain. Donc, on se bat pour que ça le soit, mais c'est pas toujours facile.
Alors, aujourd'hui, quelle est la capacité d'accueil de votre refuge et puis quels sont les animaux qui peuvent y être accueillis ?
On a une capacité d'une quarantaine de chiens et puis les chats, on peut accueillir une trentaine de chats.
Très bien. Alors, le dernier rapport de la SPA, et alors là, je vais ouvrir une parenthèse parce que votre association ne fait pas partie du réseau de la SPA, c'est bien la SPDA, qui fait partie d'un autre réseau qui est la Confédération Nationale de Défense de l'Animal. Je referme ma parenthèse. Mais donc, le dernier rapport de la SPA en 2025 pointait une surreprésentation des chats dans les refuges. Alors, est-ce que vous constatez le même phénomène et comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Alors oui, on a une recrudescence. Maintenant, on a ce qu'on appelle un turnover, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entrées, mais on a aussi beaucoup de sorties. Donc ça, c'est agréable. On arrive, alors c'est la période estivale, hein, les gens qui font pas stériliser leurs chats. On a eu énormément de portées de chatons cet été. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus il y a de portées, plus il y a de risques d'épidémie. C'est mortel, hein, le typhus, entre autres. Et donc nous, bah, c'est très difficile d'accueillir. En fait, il faut accueillir un temps assez court, donc on va dire avril-mai jusqu'en août-septembre, beaucoup de chats. Et là, par exemple, on est une période très creuse. Donc, on accueille, mais on n'a pas besoin de nous comme on avait besoin de nous pendant la période estivale. Mais après, les chats, on a la chance de bien les placer.
Alors, du côté des chiens, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sont certaines races en particulier qui sont surreprésentées. Alors, lesquelles? Vous avez déjà répondu en partie à cette question. Et puis, pourquoi ces chiens-là?
Effet de mode. Et parce que donc tout ce qui a assimilé staff depuis 99, il ne devrait plus exister. Et je pense que ce qu'on a voulu interdire, ça a donné de la valeur et pour en faire n'importe quoi. Là, moi, j'ai un American staff, un assimilé staff, donc un chien de ce qu'on appelle de première catégorie. J'ai eu un coup de fil, c'était mercredi, d'une dame très menaçante vis-à-vis du chien, s'il fallait le prendre tout de suite. Et encore une fois, c'était un première cat. Il n'était pas en règle. Et ce chien-là, je leur dis, il vient pas avec sa valise s'installer en disant je m'installe ici. Il a été désiré. Et donc, nous, en tant qu'humains, on a au moins le devoir de lui apporter le minimum. Et en fait, quand on fait des enquêtes de maltraitance, souvent, c'est des assimilés staff. Et donc, on les utilise aussi dans les cités. Je ne veux pas faire de. Mais dans les cités, même pour la drogue, ce sont des chiens qui peuvent être très impressionnants. Même eux, c'est les personnes qui les utilisent, ils en ont même peur. Et alors que ce sont des chiens très sensibles, mais qui sont capables d'une grande douceur si on leur apprend. Là, on avait Nala qui était tout peut-être 3 ans de boxe chez nous. La caricature de la pitbull, hein, les oreilles coupées. Donc nous, évidemment, on les reclasse, on leur fait faire une diagnose, un examen morphologique pour les remettre en règle, bien évidemment, et ils sont stérilisés. Comme ça, on n'en parle plus, la boucle est bouclée. Et cette chienne qui a été oubliée pendant 3 ans, alors même si on l'a aimée, elle a été oubliée de la société. Là, elle est dans un foyer avec deux autres chiens et des enfants. On a des photos. Bah, c'est notre réussite. C'était super génial.
Oui, c'est ça, ce sont des chiens qui sont aussi victimes de préjugés, à tort ou à raison, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont effectivement peur de ces chiens.
À tort ou à raison, je pense que le problème, c'est que les personnes qui les prennent ne sont pas professionnelles, ne savent pas les gérer. Et puis, les gens, ils les prennent pas pour les bonnes raisons. Mais une fois cadrés dans un bon foyer, ce sont des chiens super sympas. Après, ils ont une pression de mâchoire qui est quand même impressionnante. Donc, si on les cherche, on les trouve. Il faut pas oublier que l'humain les a laissés sélectionner pour l'attaque. À l'avant, c'était la chasse et après, ils ont été sélectionnés. Donc, c'est dans leur ADN. Donc, on ne peut pas leur retirer, on ne peut pas leur en vouloir. Je pense que les responsables, c'est l'humain, point barre. Sauf que ceux qui sont enfermés aujourd'hui, c'est les assimilés staff.
Un autre cas particulier, c'est le malinois. Alors là, malheureusement, c'est pareil, on en trouve beaucoup dans les refuges. Les raisons sont peut-être légèrement différentes.
Moi, le malinois, je dis que c'est une Ferrari. Tout le monde ne sait pas conduire une Ferrari. Moi, perso, je ne conduirai pas une Ferrari. Je pense que je peux conduire plus facilement un malinois. Et donc, en fait, c'est pareil. On les met sur les réseaux sociaux. C'est des super chiens. Ils ont des potentiels extraordinaires. Mais ils travaillent 7 heures par jour. Donc, on les met dans des conditions où ils s'ennuient, où ils sont pareils, des lignées de travail. Ils sont sélectionnés pour travailler, pour réfléchir. Si le chien ne réfléchit pas dans un foyer lambda, il va s'occuper tout seul. Et donc, tout ce qui va être mouvement, il va vouloir courir après. Et puis, le mordant, ils sont sélectionnés aussi pour ça. Parfois, ils sont travaillés en amont. Donc, il y a tout ça qui fait que c'est des bêtises. Et franchement, j'ai beaucoup de colère contre ceux qui font de la reproduction des assimilés staff et des malinois. Si on aime ces chiens-là, on arrête. Et je pense qu'une fois qu'ils seront on est une espèce de en voie de disparition, peut-être que là, on en prendra soin.
Alors, d'où viennent les animaux que vous intégrez au refuge? Est-ce que ce sont des abandons, des chiens qui sont trouvés dans la rue?
Abandon, beaucoup de fourrières. On privilégie les fourrières parce que les pauvres. Alors, on a des personnes, les fourrières, souvent, on est très critique sur les personnes. C'est moi, avec qui on travaille, c'est des gens extraordinaires, très impliqués. Par contre, ce n'est pas leur fonction, leur vocation, ce n'est pas de garder des animaux. Donc, ils mettent beaucoup d'énergie à retrouver des associations pour les accueillir. Donc, par exemple, on a des fourrières de Poissy dans le 78, une autre du 95 à Bruyères qui nous les transfère pour les sauver. Donc, c'est beaucoup de fourrières. Pourquoi? Parce que c'est des chiens, si on ne les prend pas, au bout d'un moment, faut pas se leurrer, ils vont être euthanasiés. C'est comme ça. Et du coup, on veut privilégier les sauver eux en amont, quoi.
Comment ça se passe quand il n'y a plus de place chez vous?
Ben, on dit non. Alors, ce qui est dur, c'est que moi, je suis hyper en frustration. Il y a des fois, il y a des animaux, je n'ai même pas besoin de les connaître. Par exemple, j'ai quelqu'un au téléphone, ben là, la dame qui était exécrable, j'aimais déjà son chien que je ne connaissais pas. Et dire non, c'est hyper frustrant. Moi, je vis, personnellement, je le vis mal et je sais que je dois travailler là-dessus. Hein. C'est hyper important, mais on dit non. Et puis après, nous, on est comme on n'est pas à la SPA où j'ai travaillé longtemps et c'est une très belle association, mais nous, on est tout seul, on est isolé. Donc, si on n'a pas de place, eh ben, c'est pour nous. Il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Ouais. C'est ça la difficulté. Quand on est un réseau, c'est qu'on n'est pas tout seul, on travaille en équipe. Voilà, l'équipe est hyper réduite.
Mm-hmm.
Mais après, on fait de belles choses. On a augmenté énormément nos adoptions. Donc, voilà, on peut être fier de ce que l'on fait. Avec les peu de moyens que l'on a, on arrive à faire de belles choses.
Alors, une fois qu'un animal arrive dans votre refuge, quel est son parcours? Dans quelles conditions est-il accueilli?
Donc, quand il arrive, déjà, si c'est un chien qui est abîmé, alors je vais parler beaucoup chien, moi aussi les chats. Si c'est un chien qui est abîmé, on va laisser une laisse traîner au niveau du collier pour pouvoir le reprendre facilement sans le mettre trop en difficulté. Parce qu'on a des chiens qui peuvent apprendre à charger de peur. Et puis, on va attendre un petit peu qu'il descende en stress. On va le sortir, on va le travailler. Donc, il y a vraiment un travail qui est mis le plus rapidement possible. Et puis après, la première étape, c'est le vermifuger et le débarrasiter. Et puis après, on va le mettre en règle au niveau sanitaire. Donc, l'identification, si ce n'est pas le cas, les vaccins, la stérilisation, parce que pour nous, c'est important.
Vous travaillez avec des vétérinaires?
Oui, on travaille avec des vétérinaires à Dreux, qui nous font des tarifs préférentiels. Après, c'est un coût qui est énorme, mais indispensable.
Merci d'être à l'écoute de Radio Grand Ciel. Vous êtes au cœur de l'émission Ensemble, dans laquelle je reçois aujourd'hui Claire Brissard. Claire Brissard qui est responsable du refuge de la Société de protection et de défense des animaux située à Serras-Heureux. Alors la SPDA, c'est une association et qui dit association dit bénévole. Ils sont bien sûr essentiels à votre structure. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre équipe?
Alors on a la chance, moi personnellement j'ai la chance d'être salariée. On est six salariés et puis après les bénévoles ils sont en actif, on a la tête une trentaine vraiment d'actifs et ils vont faire le petit plus. Le but c'est pas de faire notre travail puisque ce sont nos fonctions et puis je disais tout à l'heure c'est beaucoup de connaissances, il faut être très professionnel, mais ils vont nous aider pour promener les chiens, désensibiliser les chats, leur consacrer du temps. Ils peuvent nous aider au nettoyage. On a aussi, on doit rendre le refuge le plus beau possible. Donc, il y a du nettoyage à faire, même extérieur. Il y a des collectes, puisqu'on ne vit que comme ça. On n'a pas de budget pour acheter, donc on est obligé de faire des collectes. Et donc, nos bénévoles, ils vont nous aider comme ça.
Vous recherchez d'ailleurs toujours des bénévoles pour les personnes qui nous entendent, oui.
En fait, si plus on va grandir, l'objectif, ce serait de devenir une petite fourmilière où on est plein de petites fonctions et que on avance encore plus vite. On a tellement de projets pour l'association. Même un parcours pédagogique, on veut accueillir, par exemple, on veut faire une conférence pour l'adoption. En fait, toutes les personnes qui veulent adopter, que ce soit dans n'importe quel refuge ou même acheter, parce que pour moi, en élevage, c'est acheter. Acheter, aller chercher les conseils en amont. Nous, on ne veut pas être juste un centre d'accueil, on veut être aussi un centre de sensibilisation. Et plus on aura des gens sensibilisés à la cause animale, moins je pense qu'il y aura de dégâts. Je suis persuadée que l'humain aime les animaux, mais il aime mal. Donc à nous de les aider à bien les aimer.
Alors justement, vous évoquiez la formation que vous proposez au sein du refuge. En quoi consiste-t-elle et à qui s'adresse-t-elle?
Alors, on propose une formation, c'est parce que, alors, un, il a fallu se diversifier, parce que les dons ne sont pas assez importants, malheureusement. Donc, il faut qu'on survive. Et puis, moi, ça me tient vraiment à cœur, parce que j'ai fait 15 ans en tant que responsable, et le recrutement est compliqué, parce que c'est super d'aimer les animaux, mais c'est loin d'être suffisant. Et donc, là, on a mis en place une formation de 3 semaines pour apprendre vraiment le métier, le comprendre, la psychologie aussi. Donc, je donne vraiment toutes les astuces aux personnes qui veulent soit se reconvertir et travailler dans les refuges animaliers ou les jeunes qui n'ont pas débuté dans la vie active. Et en fait, c'est de leur donner les outils pour devenir les futurs soldats de la protection animale. Il n'y a pas moyen, si on veut s'en sortir, il faut des soldats.
Alors là, vous parliez aussi de votre équipe de salariés. Ben justement, quel est le profil de vos salariés? Est-ce que ce sont des gens qui ont peut-être cette vocation ou des reconversions?
J'ai des passionnés, ce sont des passionnés. Et c'est ce qui fait que le lien, il est fort, parce qu'en fait, on aime la même chose. Donc, je pense que à l'inverse d'un autre métier, on se comprend. Moi, quand je rentre à la maison et que je parle de Kiki, il y avait si de... Faut s'en fiche. Mais au travail, on peut dire tout ce qu'on veut. Et donc, c'est des gens passionnés qui même donnent de leur temps après. Et donc, c'est des gens, pas forcément, qui n'étaient pas dans le milieu, qui sont tombés un peu dedans et puis qui apprennent aussi avec le métier. Et puis là, on apprend à travailler ensemble parce que moi, j'ai des exigences qu'ils n'avaient pas forcément au départ. Et donc, on essaye d'apprendre et de grandir ensemble. Et ça marche plutôt bien. Moi, je suis vraiment fière de l'équipe. Mais que ce soit salarié ou bénévole, je suis fière de avec qui je travaille.
Alors pour faire tourner un refuge, il faut des bonnes volontés, mais aussi de généreux donateurs. Alors, la bonne nouvelle quand même, Claire Brissard, c'est qu'on peut vous aider et aider vos pensionnaires de bien des façons. Lesquelles?
Après, c'est des sous.
Voilà.
Et c'est horrible, mais c'est comme ça. Après, moi, j'invite toutes les personnes de venir nous rencontrer parce que c'est vrai que c'est donner de l'argent sans nous connaître. Peut-être qu'il faut nous faire confiance. Après, moi, je sais ce qu'on apporte aux animaux, donc c'est facile. Je me dis non, mais vous pouvez m'y faire confiance. Et puis après, honnêtement, on a des gens qui nous donnent des croquettes et tout ça, mais c'est vraiment financier. Et ça peut être même des legs. Maintenant, c'est les legs qui le font vivre actuellement, qui font vivre les petits refuges comme nous. Et maintenant, c'est pas normal de croiser les doigts pour que quelqu'un nous fasse un leg et que la personne décède. Je suis désolée, mais c'est pas comme ça que des associations devraient survivre. Et surtout, c'est qu'on n'est pas reconnu d'utilité publique, mais on retire beaucoup, beaucoup de problématiques à la société. Parfois, il y aurait eu des accidents si on n'était pas intervenu. Et que ça, on s'en fout. Nous, on ne nous écoute pas, en fait. On nous écoute au dernier moment. Mais on est professionnel, on connaît notre métier et que peut-être qu'on pourrait s'occuper de nous en amont, bien avant, et qu'on aurait pas mal pourrait conseiller, accompagner. Et nous, donc, la particularité à Serra Zéro, c'est qu'on accompagne nos adoptants. Voilà, ouais, j'ai une formule au refuge, c'est que c'est les adoptants, c'est une espèce en voie de disparition. Et je l'ai vu quand on disait qu'est-ce qui a changé, c'est qu'on a perdu aussi des adoptants par rapport à 2001 où j'ai commencé. On a aussi notre part de responsabilité dans les refuges, c'est qu'on est devenu extrêmement méfiant, on ne fait plus confiance. Donc on a notre part de responsabilité et il y a un moment, faut qu'on fasse confiance aux gens et qu'on ne peut pas. Alors maintenant, la vie, elle est comme ça, il y a des hauts et des bas. Et on doit accepter aussi qu'il y ait des personnes qui soient dans des bas et voir si on peut les aider. Mais le fait de dire que c'est une espèce en voie de disparition, on les chouchoute notre temps. Et après, je leur dis même, on fait équipe. Donc là, ce matin, j'étais faire un domicile des gens qui ont adopté un chien chez nous qui a plus d'un an de refuge et j'ai pu les accompagner, les coacher. Et les gens, ils ont besoin de ça. Les chiens, ils sont abîmés quand ils sont adoptés, quand ils sont abandonnés. Et en fait, c'est pas à nos adoptants d'assumer ce qui n'a pas été assumé avant.
Alors, en amont, justement, l'adoption, c'est une démarche qui est très forte et qui, bien sûr, engage beaucoup les adoptants. Comment est-ce que vous assurez que la rencontre se passe bien et puis surtout que l'adoptant et l'adopté vont être compatibles? Vous disiez que que les associations étaient plutôt méfiantes, mais on peut se dire que c'est à juste titre. Alors, comment est-ce que vous sélectionnez les adoptants? Est-ce qu'il y a une sélection? À quoi vous allez faire attention?
Alors, à juste titre, je ne sais pas, parce que des fois, moi, j'ai été témoin de choses où... on était vraiment dans le jugement et on allait trop loin dans notre jugement. Déjà, on les interroge dans leur mode de vie. Alors moi, je me dis à mes collègues, vous savez, enfin, c'est intrusif, mais on doit savoir combien d'heures d'absence, si c'est en maison ou en appartement, ce qu'ils ont prévu pour les vacances, l'investissement, parce qu'un chien, ça va plus demander plus d'investissement qu'un chat. Et puis après, si ils font le retour dans le refuge, chien et chat, et puis si le coup de cœur ne correspond pas, on leur dit que ce n'est pas compatible et pourquoi, on leur explique, et après, on peut les conseiller. Le but, pour moi, c'est une rencontre, une adoption. Donc, on ne peut pas choisir l'animal à la place des gens. Et maintenant, y a des fois où je n'y croyais pas. Mais je dis, oh là là, ça, c'est pas bon. Et je le dis à mes collègues, je dis, oh, je passerai. Et en fait, ça marche. Donc, moi, je préfère, on essaye. Puis, comme je dis qu'on fait équipe avec les gens, je m'engage. Donc, ça m'aide à être respectueuse avec les gens et de les accompagner. Et puis, ouais, ça marche. Des fois, ça marche super bien. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Bien sûr que si l'animal, il reste chez nous, il ne va pas revenir. Mais c'est hyper important de lui donner une chance. Le chien de ce matin, les gens, ils avaient été refroidis. Ils n'osaient pas à cause de la fugue. Et j'ai dit, écoutez, ils sont hyper bien clôturés. J'ai dit, on essaye. J'ai dit, peut-être que c'est votre chien. Et ils sont ravis. Ça fait 3 semaines qu'ils l'ont adopté. Et heureusement qu'ils ont essayé parce que ça se passe super bien.
Justement, ce qui est délicat, c'est que c'est un mélange, on va dire, entre quand même de la préparation de la part des adoptants, peut-être notamment en repérant aussi les animaux qui sont à l'adoption sur le site internet de votre association, et puis aussi justement la magie de la rencontre avec l'animal. Donc ça, il faut savoir peut-être justement les accompagner, c'est ce que vous
tout
faites.
Tout à fait. Alors on reçoit des mails pour les adoptions, effectivement, il y a le téléphone. Et donc déjà, en amont, on fait le travail. Là, pour la chienne Nala, ils étaient orientés vers d'autres chiens. Et en fait, par rapport à ce qu'ils me disaient, j'ai dit, écoutez, je vois plus tel ou tel chien. Et ils se sont projetés. Parce que ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on vient adopter, on idéalise la rencontre. Sauf que ce sont des êtres abîmés. Moi, je parle d'un abandon, c'est une déchirure émotionnelle. Donc, on ne peut pas s'attendre, mais au même titre, alors je suis désolée pour la comparaison, mais quand on adopte un enfant, on ne peut pas attendre que l'enfant nous appelle papa ou maman tout de suite. Le chien ou le chat, il regarde à quelle sauce il va y manger avant. Et puis après, il va se détendre. Mais ça, c'est du temps. Et ça, on essaye d'expliquer comme ne pas sauter sur l'animal et puis le caresser de façon intrusive. Ça devrait être interdit. Donc ça, pareil, on explique. Donc on prend le temps. Une adoption, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est 1h30, ça peut être 1h30, c'est peu. Mais en même temps, nous, dans notre temps de travail, c'est énorme.
Bien sûr. Alors, on entend parfois des préjugés sur les animaux qui sont dans les refuges, alors notamment qui sont nécessairement difficiles, voire violents. Donc ça, vous le disiez, c'est aussi une question de temps.
Oui. Et puis là, encore ce matin, la dame, elle a fait un très beau témoignage. Elle a toujours acheté des chiots. Et là, elle a dit, elle avait une réticence à adopter. Et là, elle dit, mais en fait, là, le chien de 4 ans, elle dit, mais il est mature et il apprend beaucoup plus vite. Donc, nos animaux apprennent, que ce soit les chiens ou les chats. Et en fait, ça va dépendre de nos réponses à nous. Ils ont une capacité cognitive qui est juste énorme, mais nous, il faut qu'on soit cohérent. Et nous, si nous, en tant que professionnels, on arrive à accompagner nos adoptants, alors pour leur expliquer que c'est telle ou telle attitude à avoir, l'animal, il suit, il est OK. Donc, en fait, c'est juste se remettre en question. Et ils nous font grandir. Moi, j'ai grandi énormément à travers ces animaux-là.
Alors, vous recherchez bien sûr des adoptants, mais aussi des familles d'accueil. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une famille d'accueil ?
Alors, une famille d'accueil, c'est super que vous en parliez, parce qu'on développe aussi autre chose. Les familles d'accueil, ça va être beaucoup, par exemple, pour les chatons. Quand ils ne sont pas en âge d'être adoptés, il n'y a aucun intérêt qu'ils restent chez nous en refuge. Ils ont besoin de soins qui sont quand même assez importants. Donc, on va chercher des personnes disponibles, proches du refuge, ou en tout cas, qui puissent venir rapidement au refuge. Et puis, on cherche là, en fait, on développe un projet. C'est la présidente Joëlle Corbin qui est très impliquée et très investie là-dedans. Et je la suis et je comprends. En fait, c'est que les personnes qui rentrent en EHPAD, ils subissent une déchirure. Enfin, ils abandonnent leur animal. Et le projet, c'est d'accueillir l'animal, alors en famille d'accueil. Pas chez nous, parce que l'objectif, c'est que l'animal, il ne subisse pas le changement de vie, qu'on accueille, qu'on trouve des familles d'accueil. Donc, pour accueillir cet animal-là, qui ira visiter de temps en temps son propriétaire dans les EHPAD. Et ça permettrait aussi, en même temps, de faire de la médiation avec les personnes qui sont autour. Donc, ça, c'est un projet. C'est tout nouveau. Donc, là, on rame. C'est dur. Mais donc là, c'est un appel aussi, famille d'accueil, chien, chat. Ça peut être même pour famille d'accueil lapin, si la personne elle a un lapin et qu'elle rentre en EHPAD. Là, par exemple, on a Lucky, un chien de 10 ans, un épagneul. Le 28 février, sa mère, sa maîtresse rentre dans un foyer. Et là, il faut qu'on trouve une famille d'accueil pour lui et il ira visiter sa maîtresse.
C'est un très beau projet, Claire Brissard. Est-ce que vous avez d'autres projets pour cette association?
Après, nous, le projet, c'est de développer plus l'adoption et la sensibilisation. C'est vraiment sensibiliser à fond. On a aussi 3 parcs de détente qu'on aimerait, mais là, financièrement, c'est compliqué. En fait, là, on est plus dans la survie que la dépense. Mais 3 parcs de détente pour apporter du plus à nos chiens. Les chats, on voudrait faire un sas au niveau de la chatterie pour qu'il y ait moins de risque de fugue, par exemple. Et puis après, c'est faire un club jeune, accueillir des jeunes. Donc ça, c'est un projet qui peut se réaliser assez rapidement. Et puis faire un parcours pédagogique dans notre refuge explicatif et que les adoptants, quand ils viennent, ils puissent travailler nos chiens derrière les grilles. En fait, de demander à un CIR récompenser un bon comportement, c'est simple. Mais par exemple, un chien qui a une appréhension d'un enfant, si l'enfant fait un bon exercice, on veut travailler déjà notre chien avec la présence des enfants.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à vous d'être venu à ce micro nous parler de votre mission et du refuge de la Société de protection et de défense des animaux des Serras Heureux, la SPDA. Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient vous contacter pour devenir bénévole, famille d'accueil, pour faire un don ou encore, bien sûr, pour adopter, est-ce que vous pourriez rappeler vos coordonnées et les façons de vous contacter?
Donc, l'adresse mail, c'est refugespda28@gmail.com. Nous avons un site internet, c'est www.spda.fr. Le téléphone, je le connais par cœur.
Alors, je peux vous le donner. Le 07 60 22 28 22. Et puis, bien sûr, on mettra toutes ces coordonnées sur le site internet de Radio Grand Ciel où vous pourrez également, chers auditeurs, réécouter cette émission. Merci Claire Brissard.
Merci.